France Inter.
Photographe de mode et portraitiste à l'esthétique élégante, intemporelle et onirique, Paolo Roversi est né à Ravenne en Italie et s'est installé à Paris en 1973. La plupart des grands mannequins de notre époque ont été immortalisés sur les polaroïdes de celui qui entretient une amitié avec la lumière. Il peint d'ailleurs parfois avec une lampe torche, vous comprendrez comment dans quelques instants. Une première exposition monographique lui est consacrée au Palais Galliera à Paris jusqu'au 14 juillet. Le commissariat est assuré par Sylvie Lécalier. Vous y verrez de sublimes créatures nues ou habillées, à quatre bras ou faisant le poirier, mais aussi des coiffes singulières, des silhouettes lactées émergeant des ténèbres, des lampes, des morceaux d'appareils photo, des oiseaux et un chien sur un tabouret. En somme, vous y verrez de la beauté et des songes, des regards et du surnaturel. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir Paolo Roversi.
Bonsoir.
À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui ?
Mais aujourd'hui, peut-être à cause de cette air de printemps, de ce printemps qui est dans l'air, plutôt je pensais à l'Italie, beaucoup. Et quand je pense à l'Italie, je pense à Ravenne, bien sûr, qui est la ville où je suis né et où j'ai passé toute mon enfance et ma jeunesse. Et quand je commence à penser à ça, il y a tout un film qui se déroule de mes copains, des années d'école, des matchs de football, des premiers amours, les premiers baisers, les premières cigarettes fumées en cachette. Et tous ces films, je suis toujours très nostalgique. Tous ces films se déroulent et je les regarde attentivement, photogramme par photogramme. Il y a des photogrammes qui me font rire, d'autres qui me font sourire, d'autres qui me font un peu pleurer aussi. Et je les regarde souvent, ces films, mais grâce à la mémoire, je peux changer les montages tout le temps, donc je m'ennuie jamais, je m'en lasse jamais de les regarder.
Paolo Roversi, c'est amusant que vous commenciez par là, puisque dans un entretien avec Libération en 2014, vous disiez que vous étiez trop romantique, trop sentimental et trop nostalgique, et vous ajoutez même « je peux mourir de nostalgie ».
Oui, j'espère pas non, mourir, mais...
La
mais,
preuve, vous êtes là.
Mais j'en souffre, je ne sais pas, je ne sais même pas si c'est une souffrance, mais je ne sais pas si la nostalgie c'est une qualité ou un défaut. Je n'ai jamais vraiment compris, parce que dans mon travail, la nostalgie m'a aidé beaucoup à être créative, à voyager avec mon imagination, avec mon souvenir. Et dans la vie, parfois, elle fait un peu souffrir, c'est vrai, elle fait un peu mal.
Mais c'est amusant que vous soyez aussi nostalgique, puisque la photographie, c'est presque... J'allais dire, c'est presque l'opposé, puisque c'est un instantané d'un moment présent. Mais en fait, vous avez raison, c'est ce qu'il y a de plus mélancolique, de plus nostalgique, puisque c'est un moment capturé du passé.
Oui. Un jour, une amie m'a dit, la photographie, c'est l'art de la nostalgie. Et j'ai dit, ah, peut-être elle a raison. Et j'avais jamais pensé de l'appeler comme ça, mais oui, la photographie, c'est le temps passé, mais en même temps, c'est un temps suspendu. C'est un présent continu pour moi.
Paolo Roversi, vous vous qualifiez en opposition aux photographes de guerre comme de photographe de paix.
Oui.
Vous avez photographié un mort, un seul et pas n'importe lequel, c'était le poète américain Ezra Pound lors de ses funérailles à Venise en 72, à vos débuts pour l'Associated Press. Est-ce que le cliché existe toujours ?
Oui, il existe toujours, parce que j'ai un archive dans lequel j'ai tout gardé, tout le temps, et depuis mes premières photos, d'ailleurs au Musée Galliera, il y a une photo que j'ai prise de ma sœur à l'âge de 9 ans, et même celle-là est conservée, comme vous voyez, dans mon archive, et c'est vrai que je pense que les photographes de paix et les photographes de guerre, c'est des catégories très différentes de photographes. Les photographes de guerre, souvent, considèrent les photographes de mode comme des photographes du superficiel, du commercial et tout. Et par contre, moi, je pense que les photographes de mode, c'est les photographes de la paix, de la joie de vivre, de la beauté, de l'élégance et pas des misères du monde, mais plutôt de la beauté du monde.
Butterflies in the sky, and you sat me down.
Arlo Parks et Loose and the Yakuza, le titre I'm Sorry.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Paolo Roversi, vous avez appris la photographie dès l'enfance en autodidacte, puis chez un photographe en Italie. Est-ce que vous gardez quelque chose de lui, un conseil ?
Oui, je garde déjà tous les souvenirs de lui. J'ai une photo de lui, son portrait dans mon studio, qui est toujours là à côté de moi. Et j'ai des caméras de lui que j'ai héritées de lui, auxquelles je suis bien sûr très attaché. Et ben, il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a tout appris sur la photographie, sur la technique. Voilà. Et ça, c'est très, très important pour moi.
Adolescent, vous vous intéressez à la littérature. Vous appréciez Pétrarque, Leopardi et aussi les écrivains de la Beat Generation comme Kerouac et Ginsberg que vous avez rencontrés.
Oui, pas Kerouac. Malheureusement, j'étais trop petit. Kerouac est mort avant que j'arrive aux États-Unis. Mais j'ai connu Ginsberg très bien. Et de Kerouac, j'étais un enthousiaste lecteur, parce que j'ai lu beaucoup On the Road, qui pour moi c'était vraiment un roman qui m'a fait voyager juste dans ma tête. Et j'ai pas traversé l'Amérique avec, mais je l'ai traversé juste avec ma tête.
Votre premier reportage, Paolo Roversi, votre premier reportage photo est un peu littéraire et cinématographique, puisqu'il a lieu dans votre ville natale à Ravenne, là où Dante a écrit Le Paradis, et là où Antonioni a tourné Le Désert Rouge. Est-ce que vous vous souvenez du sujet ? Vous semblez archiver beaucoup vos souvenirs.
Ça, je ne me souviens pas. Je me souviens par contre très bien du film d'Antonioni, Désert Rouge, auquel j'ai assisté à tous les tournages. J'ai séché l'école pour aller justement voir les tournages et m'enthousiasmer de voir cette ambiance et de voir comment Antonioni et toute son équipe travaillaient et la beauté de Monica Vitti qui était là aussi, bien sûr. Et c'était très fascinant pour moi.
Bah justement, Antonioni a beaucoup compté pour vous.
And a smile now, come on. Smile. Smile. God. I asked you to smile. What's the matter? I've forgotten what a smile is. Hey! Ah, you're all tired now, go on, relax. And stay like that.
1966, extrait du film Blow Up d'Antonioni, qui vous fascinait, Paolo Roversi, à 20 ans. J'espère que vous ne parlez pas comme ça aux mannequins que vous photographiez.
Non, surtout, je ne demande jamais justement de sourire. Au contraire, je demande de ne pas trop sourire, parce que le sourire, pour moi, en photographie, devient tout de suite quelque chose de très cliché et très... Enfin, il cache un peu l'expression la plus intéressante pour moi, plus intérieur et tous les sourires, c'est un peu un masque qu'on porte sur le visage, comme ça, un masque conventionnel un peu. Donc, I never say smile, smile.
You say cry, cry. Vous
non,
leur dites de pleurer.
Don't smile, don't smile.
Ne souriez pas.
Voilà.
On va revenir évidemment à votre façon de prendre des photos, mais j'aimerais qu'on s'intéresse un peu à ce qui se passe et à votre arrivée à Paris. Donc, juste avant, en 68, à Bologne, vous suivez les cours d'un certain Umberto Eco.
Ça, c'était une chance inouïe que j'ai eue de pouvoir assister à ces cours à l'Université de Bologne. C'était merveilleux parce que Umberto Eco était un professeur magnifique. Il pouvait parler des bandes dessinées mélangées à la peinture de la Renaissance ou des derniers films qu'on avait vus. Et c'était tellement vaste et intéressant que c'était merveilleux d'assister à ces cours, vraiment.
En 73, vous vous installez à Paris, mais vous étiez venu pour une semaine, initialement.
Oui, mais je suis resté là depuis 50 ans.
c'est pratiquement la même chose.
Oui,
et à ce moment-là, vous ne connaissez rien à la mode, Paolo Roversi. Vous vous qualifiez même d'analphabète de la mode.
Oui, mais je ne connaissais rien. Je ne connaissais pas les... Oui, je connaissais quelques mots comme Chanel... Dior, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, que c'était cette mode. Je ne connaissais pas les magazines comme Vogue, comme Bazar. J'étais vraiment analphabète. Et j'ai tout découvert en arrivant à Paris, en connaissant des amis qui travaillaient dans la mode, comme Poppy Moroni. Et, et Peter Knapp, et c'est eux qui m'ont guidé petit à petit à m'introduire dans ce monde, qui m'a tout de suite fasciné et tout de suite donné envie de faire des photos pour ça, parce que j'ai trouvé que c'était une façon de photographier qui pouvait être très créative, très imaginative et très... Et travailler sur la beauté, pour moi, ça a tout de suite été mon type de photographie idéal.
Vous commencez, pour vous entraîner, Paolo Roversi, avec des natures mortes chez vous sur la table de votre cuisine. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous placez dessus ?
Oui, oui, très bien, très bien. Ils ont été très importants, ces photos-là, parce que c'est ces photos-là qui m'ont ouvert les portes des magazines, de la presse et des éditoriales. C'était des photos que j'ai faites, des petits natures mortes que je faisais avec les jouets de mes enfants, des petites figurines, des petites jouets comme ça, et je faisais des compositions avec des produits comme des boîtes de bonbons, des choses de maquillage, des bouteilles de maquillage, des flacons de maquillage. Et voilà, et c'est avec ces natures mortes que j'ai commencé à trouver l'intérêt de certains directeurs artistiques dans les journaux qui m'ont après commandé de faire des photos avec des chaussures, toujours en nature morte, avec ces figurines. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Maintenant, si vous voyez ces photos-là, vous ne pensez même pas que ce sont des photos de moi. C'est inimaginable.
Et pour parler justement de nature vivante, Paolo Roversi, au début, vous disiez que vous photographiez les êtres humains comme des objets.
Au début, oui, oui, oui. Mes premières photos de mode avec des femmes et des hommes, c'était, j'avais un rapport très bizarre avec mon sujet. C'était vraiment comme, un peu comme des objets. C'était un peu ma déformation de photographe de nature morte qui m'avait mené à ça, et je m'occupais plus de la lumière, plus de l'éclairage, plus du décor que de mon sujet. Et ça, ça a beaucoup changé après.
Vous dites que ça fait donc 50 ans que vous êtes à Paris, et c'est à peu près 50 ans de photographie qu'on voit en ce moment au Palais Galliera à Paris, et jusqu'au 14 juillet. C'est la première monographie qui vous est consacrée. 140 œuvres, dont des images inédites, des tirages Polaroid, des archives de magazines, de catalogues. Je crois que votre premier Polaroid, celui que vous aviez proposé à Marie-Claire, vous a été refusé.
Oui, mais il m'a été refusé parce qu'à l'époque, on pensait qu'on ne pouvait pas imprimer un journal à partir de Polaroid, qu'on ne pouvait pas. L'imprimeur, il disait que ma session de Polaroid, on ne peut pas les imprimer sur le journal. Et moi, j'ai insisté, et finalement, ils l'ont fait. Et maintenant, c'est tout à fait courant d'utiliser des Polaroid pour imprimer les journaux.
Vous avez fusionné avec le Polaroid pendant 30 ans, Paolo Roversi, à tel point qu'il y a ce néologisme Paoloroid.
Oui, ça c'est un jeu comme ça, des mots qui veut dire que je suis très attaché au Polaroid. J'ai même fait des t-shirts avec imprimé devant Polaroid.
Vous dites avoir fait plus de 300 000 Polaroids et que vous avez à peu près attendu un an de votre vie que la photo surgisse.
Oui, parce qu'il faut toujours attendre pour chaque Polaroid, il faut attendre entre 45 et 60 secondes, et quand on somme toutes ces minutes pour tous ces Polaroids, ça fait un an pratiquement, oui. Un an d'attente.
Vos photographies, Paolo Roversi, on y voit du mouvement, on y voit du flou, parfois des accidents, et vous dites de vos photos qu'elles ne sont pas très nettes, pas très claires, que ce sont des choses qui viennent de loin, c'est presque psychanalytique ou ésotérique?
Non, je pense pas que c'est psychanalytique, c'est ma façon de travailler. C'est-à-dire que les flous et les mouvements comme ça, c'est, ou les déformations, des petites déformations, c'est des choses qui m'éloignent, qui éloignent mon imaginaire de la réalité. En fait, ce que j'aime pas trop, c'est la réalité. J'aime pas quand la photographie, c'est une représentation exacte de la réalité, mais c'est plutôt une interprétation et une invention, une réinvention, une révélation plutôt de la réalité.
Quand, en 2008, les dernières usines de Polaroid ont fermé, est-ce que ça a été un drame pour vous qui êtes si nostalgique?
Oui, c'était un drame. C'est le mot juste, c'était un drame et j'ai une grosse déception. Parce que pour moi, c'était vraiment, le Polaroid, c'était vraiment, c'était mes couleurs, c'était ma palette, c'était mon pain quotidien et c'était difficile d'en manquer.
Vous avez fait des séries qui s'appellent Last Boxes, les dernières boîtes, puisque vous aviez justement en prévention de cette fermeture, acheter plein de boîtes de Polaroid, mais elles ont des dates de péremption. Là, de nouveau, on peut faire des Polaroid. Est-ce que vous en refaites ?
Non, je l'ai fait dernièrement juste pour un livre qui s'appelle « Des oiseaux ».
Oui.
Et j'ai fait les dernières boîtes, mais c'est toujours des boîtes périmées, oui.
Et vous n'allez pas essayer d'en faire avec des nouveaux Polaroid ?
Non, à cause de la nostalgie, comme vous dites, pour moi, mes vieilles Polaroid sont irremplaçables.
Jalen Ngonda, Illusions.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Paolo Roversi, on évoque avec vous votre exposition monographique au Palais Galliera à Paris. Dans l'ouvrage épistolaire « Lettres sur la lumière » que vous avez fait avec le philosophe Emanuele Coccia, vous écrivez « Peut-être inconsciemment, le photographe recherche-t-il une vérité inatteignable, l'âme du monde et de toute chose. En cela, il est aidé par ce que j'appelle l'autre lumière, celle que chacun porte en soi tel un flambeau, affirmant son existence. » Est-ce que vous pensez que vous voyez les âmes des gens que vous photographiez ?
Non, je ne pense pas d'avoir cette chance de voir les âmes aller nues comme ça, mais je les ressens. Parfois, il y a des rencontres que je ressens très fort et... Une symbiose, une affection, comme ça, une amitié photographique très forte. Et ça, ça me permet de me lier à mes sujets et de pouvoir les photographier d'une certaine façon.
Est-ce que votre habitude de regarder à force de photographier vous fait regarder les gens différemment, sans les photographier?
Oui, et pour ça, il y a une très belle... Très belle, ça c'est sûr, il y a une très belle citation de Dorothée Lange, elle dit que l'appareil photo, c'est l'objet qui apprend aux gens à regarder sans appareil photo.
Tout à l'heure, vous parliez de la réalité et vous disiez, Paolo Roversi, que vous aimiez vous en détacher sur vos photos. Quel est votre rapport au réel?
Oui, mais le plus distant possible, le plus distant possible, parce que quand je ferme les portes de mon studio, je laisse tout ce qui est réel, tout ce qui est logique, tout ce qui est rationnel dehors, et je ferme bien la porte, et j'essaie de rester dans l'imaginaire, dans les rêveries, dans les rêves, dans tout ce qui est sentiment et pas raison.
Et pourtant, quand on lit certaines de vos interviews, on se dit que vous semblez vous accommoder des choses, puisque vous dites que beaucoup de photographies sont mauvaises, moches, ratées, mais je les ai toujours considérées comme étant belles, justes. Une fois qu'elles sont venues au monde, il faut les accepter telles qu'elles sont. Vous acceptez facilement la notion d'accident?
Oui, plus qu'accepter, j'ai la recherche. Oui, pour moi, chaque accident, c'est un cadeau, vraiment. Et je l'accepte, je l'accueille comme un cadeau. Et c'est toujours pour moi très, très intéressant, et parce que j'aime beaucoup l'inattendu et d'être surpris par quelque chose d'inattendu et d'inespéré.
Mais dans un cadre rassurant, pas dehors.
Oui.
Alors justement, le contrôle se trouve dans votre studio, Paolo Roversi, notamment pour la lumière qui est parfois trop forte en extérieur, comme c'était le cas à Lanzarote ou à Lima au Pérou. Et votre amitié avec cette lumière, votre studio s'appelle Studio Luce, Studio Lumière, est née de votre peur du noir enfant.
Oui, ça c'est une histoire que je raconte, hein, qui est vraie, que quand j'étais enfant j'avais très peur du noir, j'ai encore peur du noir.
C'est vrai?
Un peu moins quand même. Qu'enfant. Et donc, j'ai guetté toujours les petites lumières qui rentraient dans la chambre, qui dessinaient des fantômes, des ombres sur les murs de ma chambre. Et ça, c'était mes premières images, en fait, mes premières photographies. C'était ma première lanterne magique, cette chambre. Et maintenant, mon studio, c'est un peu la même chose.
Dans l'introduction, j'ai dit que parfois vous peignez avec une lampe torche. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs en quoi ça consiste, votre technique du painting light?
La painting light, c'est une vieille technique photographique que moi j'utilise beaucoup parce que je l'adore. C'est juste une petite lampe de poche qu'on tient dans la main comme un pinceau et qu'on prend la photo dans l'obscurité totale. On garde l'objectif, la caméra très ouverte, longue exposition donc. Et pendant ce temps, on passe la lampe torche et son petit rayon de lumière sur les visages, sur les mains, sur le fond, où on veut, on peint, là où on veut, notre sujet. Et voilà, et ça donne des effets très particuliers. Et c'est une lumière que j'aime beaucoup parce que c'est une lumière toujours imprévue, toujours imprévisible, et toujours, on ne sait jamais à la fin qu'est-ce qui va sortir. Et ça, j'aime beaucoup. C'est une lumière très vivante, très mystérieuse.
J'ai une question sur la vie quotidienne qui est très physique, qui me vient, Paolo Roversi. J'aimerais bien savoir comment c'est éclairé chez vous, vous qui êtes si sensible à la lumière. Est-ce que vous vous éclairez avec... Vous savez, aujourd'hui, pour les économies d'énergie, on parle toujours d'ampoules LED. Eh bien, j'aimerais savoir ce qu'un amoureux de la lumière met chez lui comme ampoule.
Pas les LED, non?
Ouais, j'en étais sûre.
Non, j'aime pas beaucoup la lumière LED, j'aime pas beaucoup.
Halogène.
Oui, halogène, mais surtout... J'aime bien la lumière, les lumières ambiance, j'aime beaucoup la pénombre. Mais pendant la journée, bien sûr, j'ai la chance d'habiter un appartement très lumineux. Et donc, avec les rideaux et tout, je joue avec ça. Et les soirs, j'aime bien la lumière d'un feu de cheminée, j'aime bien la lumière juste d'un écran d'ordinateur, j'aime bien des lumières très faibles.
Dans l'exposition qui vous est consacrée en ce moment au Palais Galliera, Paolo Roversi, justement, l'atmosphère est plongée dans la pénombre. C'est l'un de vos choix?
Oui, mais c'est une lumière qu'on a dessinée avec l'éclairagiste, avec le commissaire de l'exposition, Sybille Caillé. Et on a décidé d'opter pour cette ambiance qui nous paraissait plus juste pour mon travail photographique.
Allô? 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 Vous m'entendez? Bon, je commence.
Si, le grand couturier Isidore Ducasse a mis à mort la mode. La mode est morte. Vive la mode. À la ligne. L'ingénieur du gêneux, le magicien des mollets, le géomètre des cuisses, l'architecte des reins, le grand metteur en scène du corps féminin, Isidore Ducasse a recréé la femme. De son cerveau électronique, de sa côte, est sorti tout habillé, lève de l'air atomique.
À 1966, Grayson Hall commentant le défilé de l'ère atomique imaginé dans Qui êtes-vous, Polly Magou de William Klein, un film que je recommande à tout le monde, chers auditeurs, si vous ne l'avez pas vu. Et il s'amuse, puisqu'Isidore Ducasse est évidemment l'autre amont. Paolo Roversi, je voulais nous mettre dans l'ambiance d'un défilé et dans la mode. Vous avez photographié la plupart des grands mannequins de l'époque, ainsi que des actrices. Isabella Rossellini, Kate Moss, Natalia Vodianova, Inès de la Fressange, Carla Bruni, Naomi Campbell. Mais la chose qui vous obsède, c'est leur regard.
Oui, pour moi, le regard est très très important. J'ai une ancienne croyance, c'est celle que le regard est le miroir de l'âme. Et je le pense vraiment, donc pour moi le regard, c'est ce que, comme il disait mon ami Peter Lindbergh, il disait, une photo, même des modes, elle n'est pas belle si le regard n'est pas juste.
Elle change ses modèles de photo en photo, et il y a par exemple une femme assez fascinante, il y en a plusieurs, mais il y a l'américaine Ginver von Sinus. En 2004, à Paris, c'est une femme d'une autre époque, chemise ouverte à demi nue. En 96, elle a les cheveux courts, elle est en train de fumer, elle a presque une allure de punk, ça pourrait être un Sex Pistol. Et puis sur une autre photo de 2007, on dirait une geisha blonde.
Oui, mais ça c'est l'art d'être mannequin. Elles sont très versatiles, elles sont capables de se transformer selon la robe qu'ils portent, selon la lumière avec laquelle elles sont éclairées. Elles sont vraiment des artistes qui savent jouer un rôle sans avoir un script, sans avoir un vrai scénario. Et Guinevere, elle est vraiment ça. C'est comme une danseuse qui n'aura jamais un pas, comme un musicien qui n'aura jamais une note. Elle est toujours juste dans tout ce qu'elle fait.
Je crois que vous avez des rituels pendant les shootings, Paolo Roversi. Vous mettez de l'opéra ou Johnny Cash ou des chansons napolitaines?
Oui, c'est vrai. C'est un drôle de mélange, je dis comme ça. Mais c'est vrai, je mélange un peu tout ça. Et j'aime bien. Et selon la musique qu'on joue, et les moods un peu de toute l'équipe changent. Et parfois, je me sers de la musique justement pour changer des rythmes des photos et des rythmes et des états d'âme du travail de l'équipe.
Dans l'exposition qui vous est consacrée, Paolo Roversi, il y a une salle dédiée à vos nus. Vous avez d'ailleurs fait un très bel ouvrage qui s'appelle Nudi, nu au pluriel en français. Vous faites des nus très pudiques.
Oui, j'ai jamais fait des nus avec une recherche érotique ou anatomique. Pour moi, faire un nu, c'est comme faire un portrait, seulement sans vêtements, et c'est tous les nus que vous avez eu de moi, ce sont des portraits, tout simplement. Pour moi, faire un nu, en fait, c'est la façon la plus élégante de faire un portrait.
Pourquoi?
Parce qu'il n'y a rien de plus élégant qu'un corps de femme nue et plus atemporel aussi.
Il y a quelques hommes dans vos photographies, mais beaucoup moins.
Oui. Non, il y en a. Même dans mes photographies des nus, il y a pas mal d'hommes. Pas exposé à Galliera, mais dans d'autres expositions, je l'ai montré.
Est-ce que vous arrivez, Paolo Roversi, après avoir photographié tant de beauté appartenant au canon de beauté du moment, à apprécier des corps plus éloignés des canons de beauté, de ceux que vous photographiez?
Oui, 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 bien sûr. Pour moi, la beauté n'a pas de limite. C'est pas une recette. Ça n'appartient pas à des codes précis. Et la beauté est très vaste et très, très intouchable, très mystérieuse.
Est-ce que vous avez été inspiré par la peinture? Je pense à certains de vos clichés où il y a des feuilles d'or et qui peuvent faire penser à des tableaux de Klimt. Je pense à la photo de cette femme aussi bleutée qui pourrait faire penser à un Vermeer. Et je sais que vous avez travaillé quelques années dans l'atelier du peintre Théodore Géricault, pour l'anecdote.
Pour l'anecdote, parce que je n'ai jamais été inspiré par Géricault. Par contre, c'est très flatteur que vous me fassiez connaître à Klimt et à Vermeer. Je suis très flatté, mais c'est vraiment des comparaisons très hasardées de votre part.
Je suis quelqu'un de très hasardeux. Il y a du surnaturel aussi dans vos photos, Paolo Roversi. Des bras qui se dédoublent, des sortes de créatures fantastiques.
Oui, non, ce n'est pas des créatures fantastiques. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu des irréalités qui rentrent dans mes photos. Un peu d'imaginaire, un peu comme dans un conte de fées, c'est un conte de fées, c'est des anges, c'est un peu des figures comme ça.
Vous avez d'ailleurs un livre qui s'appelle Ange au pluriel. Mais je pense à la série blanche que vous aviez réalisée pour Comme des garçons, où sur la tête, la modèle porte une coiffe qui semble minérale et végétale à la fois, pierre et algues. C'est vous qui aviez décidé de cette coiffe ou c'était la marque?
Non, c'était la marque et surtout c'est des coiffes d'un ami avec qui j'ai collaboré depuis presque le temps que je suis arrivé à Paris, qui s'appelle Julien Dis, qui est un extraordinaire artiste, qui fait des coiffes, des coiffures et des têtes merveilleuses et qui a travaillé longtemps pour Comme des garçons avec une collaboration très belle. Et donc ça, ces photos-là viennent de cette collaboration entre lui et la marque.
Il y a aussi une photographie que vous avez réalisée pour Alexander McQueen où le modèle a une robe tachée de sang et on dirait une héroïne shakespearienne.
Oui, c'est bien parce que chacun voit ce qu'il veut. Soit ce qu'il veut dans les photographies.
J'aime voir des gens tachés de sang, en effet, Paolo Roversi.
Et j'avais jamais pensé à l'héroïne s'expirer en regardant ces photos.
J'ai lu que vous considériez vos photos comme votre journal intime. Si on veut lire votre journal intime, il suffit de regarder toutes vos photos.
Je pense. Mes photos sont vraiment un journal intime et je pense qu'on me voit presque dans chacune de mes photos, on lit quelque chose de moi.
Vous arrivez à savoir exactement ce que c'est? Ou ça reste aussi mystérieux pour vous?
Oui, ça reste aussi mystérieux. J'aime pas beaucoup analyser mon travail, expliquer pourquoi j'ai fait ça, pourquoi
d'accord.
Je l'ai pas fait. J'aime pas mettre des mots sur mes photographies. Je pense que les mots et la photographie sont séparés et que les images, ils ont pas besoin d'aller chercher des explications.
Est-ce que c'est pour ça que tous les titres que vous aviez imaginés pour cette exposition n'ont pas été pris comme Silencio, Lanterna Magica, Teatro Lux? C'est parce que vous n'aimez pas les mots? Les images suffisent?
Oui, je pense que Paolo Roversi, c'était suffisant pour parler de mes images.
Paolo Roversi, je vous ai demandé des choix musicaux. Et le premier, c'est Senza Fine, Sans Fin, de Gino Paoli. Un petit mot avant qu'on l'écoute ou vous ne voulez pas expliquer non plus?
Oui, ça, je peux expliquer.
D'accord.
Gino Paoli, c'était un peu... Comment on l'appelle ça?
Vous voulez me le dire dans une autre langue?
Oui, la colonne sonore.
La colonne sonore, oui, la bande-son.
La bande-son de ma vie, en fait, voilà. C'était un peu la bande-son de ma vie. Et Senza Fine, c'est la chanson la plus jolie pour moi de son répertoire, la plus belle de son répertoire, qui m'a toujours beaucoup touché, que j'ai beaucoup chanté. Parce que je chante beaucoup en voiture, dans ma salle de bain, au lit parfois, je chante beaucoup, j'aime beaucoup chanter.
Senza fine, tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere senza fine. La 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 la.
Senza fine par Gino Paoli dans Grand Canal sur France Inter. Paolo Roversi, voici votre autre choix musical.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, e scioglie il sangue dentro la
nostra. Paolo Roversi, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on écoute? Parce que je préfère entendre votre accent italien plutôt que le mien.
Ça, c'est une merveilleuse chanson de Lucio Dalla que je connaissais, c'était un ami à moi et il était à l'école avec mon frère Jean-Baptiste. Et donc, c'est une merveilleuse chanson où il parle de. De Caruso,
Caruso,
le chanteur napolitain, le ténor napolitain, et qui était à Naples sur un balcon de Sorrento. Et c'est une chanson très sentimentale qui réunit en elle, à travers Caruso, les goûts de l'opéra, de la lyrique, et aussi de toute la musique napolitaine, de toute cette ambiance très. Très romantique et très sentimentale de Naples.
Paolo Roversi, je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs. Vous êtes collectionneur, vous êtes passionné d'histoire de la photographie. Et dans les lettres sur la lumière avec Emmanuelle Ecoccia, on peut voir la découverte que vous avez choisie pour les auditeurs. C'est le point de vue du gras. Et je vous laisse nous en parler, je vous laisse nous dire ce que c'est.
Le point de vue du gras, c'est la première photo de l'histoire de la photographie, de l'histoire du monde, qui a été prise par Nicéphore Niépce à Chalon sur non
à Saint-Loup de Varennes
à Saint-Loup de Varennes à côté de Chalon-sur-Saône
et en 1827
voilà et donc c'était la, depuis des siècles les hommes ils essayaient de copier ces dessins du soleil et d'en faire de l'arrêter sur une plaque ou sur une feuille et Niépce a réussi avec un tour de magie. Il a mis du bitume de Judée, qui était une matière sensible à la lumière, sur une plaque. Et il a photographié son jardin de la fenêtre. Et là où le soleil passait tous les jours depuis des siècles, ces jours-là, il a réussi à arrêter cette image pour toujours.
C'est extraordinaire. Vous y avez passé une nuit, je crois. Vous avez vu la vue ?
J'ai vu la vue. De la fenêtre, j'ai dormi au pied de la fenêtre une nuit. J'ai passé la nuit allongé sur le parquet, là où Niépce faisait encore ses essais, ne faisait plus ses essais, mais il y avait encore les taches de ses essais par terre, du bitume des Judées, de l'œil de lavande. C'était vraiment comme aller à la source de la photographie, vraiment rentrer dans la source de la photographie.
On peut voir sa reproduction justement dans L'être sur la lumière que vous avez fait avec Emanuele Coccia, paru aux éditions Gallimard. Ce sont des lettres que vous échangez avec le philosophe, des lettres écrites entre 2020 et 2023 avec une introduction d'Éric De Luca qui parle de la beauté de vos modèles, Paolo Roversi, qui aurait menacé son flegme.
Oui, Éric De Luca était très touché par la beauté des filles, des femmes qu'il a eues dans les livres. Et il en parle d'une façon presque biblique. C'est intéressant, son point de vue.
Comment ce projet de livre épistolaire vous est venu ?
En parlant avec Emmanuel, un soir, on parlait de photographie et de philosophie. Et j'ai dit, pourquoi on n'écrit pas un livre ensemble ? Il n'y a jamais eu un livre d'un philosophe et d'un dialogue entre un philosophe et un photographe, ça peut être intéressant. Il y a un merveilleux livre de Roland Barthes, philosophe, mais jamais c'est duo ensemble, photographe-philosophe.
Il y a un autre de vos ouvrages qui est paru il y a quelques mois, c'est Des oiseaux, vous l'avez mentionné tout à l'heure, paru à l'atelier EXB, 37 photographies couleur et noir et blanc d'oiseaux de fauconnerie que vous avez fait venir dans votre studio, Paolo Roversi. Hibou, chouette et faucon, vous les avez photographiés comme des mannequins.
Oui, non, je les ai photographiés comme des oiseaux, parce que mais j'ai pris leur portrait. Pour moi, chaque photographie est un portrait, que ce soit un oiseau, que ce soit un mannequin, que ce soit un arbre, que ce soit n'importe quoi, un paysage, c'est toujours un portrait, dans le sens où j'aime bien isoler mon sujet et le soustraire au tout le reste du monde, le faire devenir le centre du monde. Et même ces oiseaux, dans mon studio, sont le centre du monde pour un moment.
Et vous les avez laissés libres ?
Libres, oui. Ils volaient dans les studios. Ce n'était pas facile, avec ma grande chambre 20-25, de prendre leurs portraits.
Il y a aussi quelques accidents avec des polaroïdes, les polaroïdes déchirés, des oiseaux dont on ne voit que la moitié du visage.
Oui, ça, c'est à cause des polaroïdes périmés, justement.
Les dernières boîtes que vous aviez ?
Voilà.
Paolo Roversi, vous dites que mettre au monde une image est une responsabilité. Je cite « Il ne faut pas le faire comme ça sans raison. Il faut faire attention à ne pas polluer le monde de photos qui ne servent à rien. » Je pense à cette phrase de Wim Wenders « Faisons des images plus belles et nous aurons un monde plus beau.
Ah, » Je suis tout à fait d'accord avec Wim Wenders. J'adhère complètement à sa philosophie. Je pense que c'est important de faire des belles images si on veut vivre dans un beau monde et qu'il faut faire attention à la pollution, justement, d'images qui ne servent à rien et qui n'ont aucune raison d'exister et qui ne sont pas prises non plus avec un vrai intérêt, avec un vrai but, avec amour.
Que rêvez-vous de photographier ?
Les rêves, justement.
Les rêves ?
Oui. Je rêve de photographier les rêves. Ça me plairait beaucoup de photographier les rêves.
Est-ce que vous écrivez vos rêves ?
Non, non. Et je les oublie parfois, mais je les aime, j'aime beaucoup rêver. Je rêve beaucoup. Je suis un grand rêveur.
Que pensez-vous ne jamais pouvoir capturer ?
J'ai réussi avec les oiseaux. Maintenant, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui puisse. Encore une fois, je vous réponds les rêves.
Qu'est-ce qui sera toujours mieux dans le réel qu'en photo?
Ben la vie. La vie.
Pas toujours, hein. Parfois la vie elle a une sale tête. Et elle est mieux en photo.
Oui, non, mais la vie avec ses émotions et tout est toujours plus fort vécu qu'en photo. D'ailleurs, je voudrais raconter, donner un conseil à nos auditeurs qui venant d'un photographe, il doit les mettre encore plus en alerte. Je voudrais conseiller à nos auditeurs de, dans la vie, de profiter de certains moments importants et intéressants, de les vivre pleinement, en pleine conscience, et pas de perdre du temps à les photographier pour en avoir un souvenir qui est un fond et c'est rien. Il vaut mieux les vivre pleinement. Et je pense à toutes les personnes qui font devant la Joconde et qu'au lieu de regarder la Joconde, ils se prennent des selfies et tout. Et ils ratent complètement ces moments merveilleux où ils pourraient contempler un tableau magnifique et plein d'occasions de ces gens-là. Et je voudrais à ce propos raconter une anecdote de Dorothée Lange, photographe américaine des années de la première moitié du XXe siècle, qui avait un studio de portraits à San Francisco, mais qui après l'a parcouru dans les années 30 les États-Unis en long et en large pendant les années de la dépression, où il a fait des photos vraiment magnifiques. Mais il racontait toujours une anecdote qui m'a appris beaucoup de choses. Et il racontait qu'un jour, il était allé pique-niquer avec ses deux garçons, Daniel et John, et pendant qu'ils étaient, elle, elle était longée sur l'herbe, le petit garçon, John, il est parti ramasser des fleurs, cueillir des fleurs pour elle. Elle est revenue vers elle avec un beau bouquet qu'il lui offrait comme ça. Et elle, au lieu de tendre la main pour prendre le bouquet, elle a mis sa caméra entre elle et lui pour prendre une photo. Elle raconte plus tard que toute la ville a regretté d'avoir si mal géré cet instant de tendresse. Et ça me touche beaucoup chaque fois que je raconte cette histoire et chaque fois que je la relis, parce que c'est vrai qu'il faut profiter de la vie et pas toujours mettre une caméra entre nous et la vie. Et ça vient d'un photographe en plus.
Merci beaucoup Paolo Roversi. Votre exposition monographique au Palais Galliera à Paris est visible jusqu'au 14 juillet. Elle est accompagnée d'un catalogue dirigé par Sylvie Lécaillé et vous-même est disponible aux éditions Paris Musée. Votre livre « Lettres sur la lumière » avec le philosophe Emanuele Coccia est paru chez Gallimard le 14 mars dernier. Enfin, votre ouvrage photographique « Des oiseaux » est publié aux éditions Atelier EXB. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Estelle Gap. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Clément Vuillet.